Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, en cette rentrée universitaire, au moment où nous recommençons, l'Église nous propose de méditer un texte fondamental illustrant parfaitement la question de la charité. La charité est liée avec le salut. Dans l'Église, nous n'avons jamais séparé la foi de la charité, et ici, la question qui se pose immédiatement par ce docteur de la loi qui veut mettre à l'épreuve, ce qui ici n'est pas forcément négatif, on met toujours à l'épreuve ses maîtres et c'est normal, demande au Seigneur, mais que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Et le Seigneur va lui répondre d'une manière facile, en deux temps, d'abord en lui disant, mais quelle est la loi? Tout bon juif et a fortiori tout bon docteur de la loi connaît le commandement fondamental, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Voulant être un élève comme vous, parfait, nous voulons tous être parfaits, il lui dit, mais qui est mon prochain? La question n'est pas si anodine, car si vous allez voir dans le Lévitique au chapitre 19, au verset 11, vous verrez que le prochain, c'est surtout le compatriote. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être le prochain. Donc, et il y avait une controverse en Israël pour savoir qui était vraiment le prochain. Le Seigneur va inviter, retourner la question et donner, comme toujours, à partir d'une question déterminée, un angle de vue totalement surnaturel et supérieur, en lui disant cette parabole du bon Samaritain, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Voyons déjà cette parabole dans son réalisme pour la voir ensuite dans son sens allégorique. Voyons tout d'abord la parabole au sens réaliste du terme. L'histoire que raconte le Seigneur est extrêmement réaliste. On pourrait la mettre en film ou en théâtre d'une manière très facile. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, si vous êtes allé, ça descend très raide. C'est un chemin ardu, propice aux guet-apens. Il n'est pas étonnant que ce chemin de la vie, vous l'avez compris, soit difficile, même quand on descend de l'église. Vous pouvez imaginer à Saint-Roch descendre les marches de Saint-Roch, ça descend rudement, et c'est ce qui se passe pour cet homme. Premier élément qui nous frappe, toute parabole est à quelque chose de frappant, de choquant, un prêtre et un lévite passent là, voit cet homme, on ne sait pas qui c'est que cet homme, nous allons le voir, peut-être, découvrir, et il est blessé, roué de coups par des brigands. Les brigands, ce n'est pas ce qui manque dans la vie, vous imaginez bien, les brigands sont nombreux, et nous espérons qu'ils ne soient qu'à l'extérieur de l'église. Toujours est-il qu'en descendant du lieu saint qu'est Jérusalem, il rencontre des brigands. Et puis, les prêtres qui passent ne veulent pas le toucher. On peut y trouver une excuse, évidemment, juridique. C'est qu'ils viennent de viennent de Jérusalem, où ils se sont purifiés, où ils sont enfin purs. C'est la question du pur et de l'impur, du partage entre les bons et les mauvais, question qui traverse toujours notre conscience, et qui se règle assez simplement par la loi. Alors voilà, s'ils touchent à cet homme plein de sang, ils ne seront plus purs. Il leur faudra recommencer, remonter à Jérusalem. Ils auront perdu leur temps. Peut-être tout simplement qu'ils se désintéressent et qu'ils ne prennent plus au sérieux ce commandement du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, dans la question du docteur de la loi, il cherche à savoir s'il y a des moyens d'éliminer de temps en temps ce prochain qui aurait besoin de moi, mais qui ne serait pas vraiment un prochain. Celui qui passe et qui a compassion, et c'est le point central qui fait basculer l'histoire, c'est le Samaritain. Alors le Samaritain, c'est le méchant. Oui, pour un pharisien, c'est le méchant. Le Samaritain, c'est celui qui adore Dieu sur le mont Garizim, et donc pas à Jérusalem. C'est celui qui n'est pas de la même race, qui est issu d'une autre origine, sinon d'un autre clan de Jérusalem. Il y a encore une dispute ici. Bref, c'est celui qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas comme nous, et qui donc est forcément beaucoup moins bien. Et on ne lui parle pas. Vous connaissez un autre exemple dans l'Évangile. C'est la Samaritaine qui s'étonne que le Christ, lui, qui est plutôt issu des pharisiens, eh bien, ose lui adresser la parole. Alors voilà, cette réalité, vous pouvez l'appliquer à votre vie, et je suis sûr que vous trouverez des exemples nombreux où la question est d'avoir compassion, c'est-à-dire pitié, un mot qui n'est malheureusement plus à la mode, peut-être aussi l'a-t-on réduit à quelque chose de vulgaire pour surtout ne pas la pratiquer, cette pitié, la pitié qui est considérer l'autre, être ému, le latin dit « commotus », il est remué en voyant ce blessé qui a besoin, et avant que de se demander s'il est pur, s'il est impur, s'il est de chez moi, s'il n'est pas de chez moi, il voit qu'il en a besoin. Alors, le Seigneur renverse la logique de celui qui lui pose la question, qui lui avait dit « Mais qui est mon prochain ?»« Maître, donnez-moi un catalogue et je tâcherai de faire au mieux. » Et ici, c'est le Seigneur à la fin qui lui dit « Alors, de qui a-t-il été ? Qui est son prochain ?» Mais il parle de la personne blessée. Eh bien, c'est celui qui s'est approché de lui. Alors parfois, on donne une explication un peu rapide en disant « C'est le prochain objectif ou c'est le prochain subjectif ?» Lecture ô combien moderne et à mon avis, qui est une impasse. La lecture que je vous propose d'adopter, c'est la question de l'engagement de moi-même. C'est que ce n'est plus un catalogue, ce n'est plus une loi qui me dit qui est mon prochain. C'est la conscience du bien qui est en moi, c'est la loi de l'esprit infusée dans mon cœur, c'est celle que vous allez recevoir au pied de cet autel en recevant la parole de Dieu vivante qui est l'Eucharistie elle-même. C'est ce bien à l'intérieur de vous qui va vous donner de voir « celui-ci est mon prochain ». Et alors, il me faut le réaliser, ce prochain, il me faut m'en approcher, il me faut me faire le prochain de celui qui en a besoin. Et oui, nous sommes passés avec le Christ d'une loi qui détermine le bien et le mal, à une loi intérieure, à l'Esprit Saint, qui en vos cœurs vous commande ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Alors c'est beaucoup plus intime à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile aussi, car nous avons avec crainte et tremblement l'angoisse de savoir si oui ou non nous réalisons l'œuvre de Dieu. Deuxième point qui sera plus simple en un sens et qui se veut une illustration, cette parabole a été commentée par tous les pères de l'Église à peu près et qui en donne une signification allégorique. Je vous livre sans explication différentes images qui peuvent nourrir du coup notre prière. Cette route qu'emprunte cette personne, c'est évidemment la route de notre vie, car cette personne, c'est chacun de nous. Nous allons, au sortir de cette messe, retrouver le monde et ses dangers, non pas que parfois il n'y en ait pas dans l'Église, mais espérons qu'il n'y en ait pas trop ce matin, des dangers parmi nous. Mais en tout cas, sur les routes du monde, eh bien, le danger peut nous guetter. Et les brigands que nous rencontrerions, eh bien, ce sont ceux qui font le mal. Ce sont ceux qui se livrent au diable. Ce sont ceux qui, volontairement, ne veulent pas du bien. Mais il y a aussi les prêtres et les lévites. Je ne veux pas m'exclure, mais il peut s'agir de chacun d'entre nous. C'est ceux qui s'abstiennent de faire le bien. Il y a les brigands qui font le mal et les lévites et les prêtres qui sont ceux qui s'abstiennent de faire le bien. In fine, ils se retrouvent dans la même catégorie. Le samaritain, le bon samaritain, c'est évidemment le bon pasteur. Les samaritains, c'est ceux qui gardaient. C'est l'évêque, c'est celui qui garde et qui surveille, qui garde son troupeau. C'est le bon pasteur. L'huile et le vin que le bon samaritain va mettre sur les plaies, ce sont évidemment dans l'Église les sacrements qui ont toujours quelque chose d'une matière nécessaire, ici le pain et le vin, l'huile souvent dans beaucoup de sacrements. Il y a la monture, cet âne sur lequel le bon samaritain va mettre le blessé, cet âne, mes bien chers frères, c'est la grâce de Dieu. Car si vous pouvez avancer dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes extraordinaire, ce n'est pas parce que je suis un très saint prêtre, c'est parce que Dieu nous prête de réaliser, de susciter en nous le bien et de le réaliser. J'avance comme un âne. Il y a un cardinal j'ai oublié son nom, ça y est, qui a pris sa retraite à Bayonne, qui avait écrit un livre de ce titre, « Avancer comme un âne, c'est avancer avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire avancer avec la volonté de réaliser avec détermination notre vocation. » Les deniers que le bon samaritain va donner à l'aubergiste, c'est la doctrine sacrée. C'est dans l'Église ce que nous avons de plus précieux et qu'il faut conserver, car c'est ce qui nous permet d'échanger cette vie contre la vie éternelle. C'est la doctrine de l'Église. Il y a l'aubergiste enfin. Vous imaginez bien que c'est vous et cette auberge, c'est l'Église. Voilà, mes bien chers frères, notre souci de la vie éternelle, immédiatement attaché à celui de la charité. C'est une perversion de la conception de la charité et de la conception de la foi que de le séparer l'un de l'autre. C'est déjà l'erreur qui est faite de séparer la foi des œuvres. C'est une œuvre mauvaise et, paradoxe de l'histoire, les chrétiens qui ont suscité de nombreuses œuvres de charité, des hôpitaux, des orphelinats, l'assistance aux pauvres, l'assistance aux plus petits, se sont parfois fait confisquer, car notre société est chrétienne sans le savoir, hélas, ou sans vouloir l'assumer plus tôt. Elle a réalisé et l'aide aux pauvres, et l'aide aux malades, et l'aide aux déshérités, et aujourd'hui ne veut plus entendre quelque chose de la foi. Voilà pourquoi il nous appartient, mes bien chers frères, nous les chrétiens fervents, d'être de charitables fervents de l'action de l'Église qui doit à la fois manifester la foi et agir dans ses œuvres. Voilà la condition de la vie éternelle. Ne nous laissons pas voler nos œuvres. Si d'autres en font, Deo gratias, il n'y a pas de bien sinon en Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. Il nous faut agir nous-mêmes dans la foi et le bien pour que nous aussi nous découvrions de qui nous allons nous approcher, que nous aussi nous puissions posséder la vie éternelle. Ainsi soit-il.